Vous écoutez « On lit pour vous ».
36 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, un texte de Nicolas Bérubé, paru dans la presse. Il paraît que ça augmente le bonheur de faire une liste de gratitude. Une liste de gratitude, c'est tout simplement une énumération de choses pour lesquelles on est reconnaissant. Notre cerveau cherche sans cesse à repérer ce qui manque dans nos vies. Dresser une telle liste permet de le faire taire un instant. Voici 36 choses pour lesquelles je suis reconnaissant cette année. Il n'y a rien de magique avec le nombre 36, c'est juste que j'en ai trouvé 36. Mon toit. Il a neigé ou plu des dizaines de fois en 2025, mais ma famille et moi sommes restés au sec. Le café. Je n'ai jamais habité dans un pays où le café était cultivé. Pourtant, tous les matins, j'ai des grains de café dans ma cuisine, prêts à être moulus et à me permettre d'exister. Ma douche. Imaginez vous laver avec une cruche d'eau froide et une éponge. Pourtant, c'était normal à une époque. Partout, tout le temps. Le déverrouillage facial. Faire apparaître mon compte bancaire grâce à mon visage. On vit dans le futur et on ne le réalise plus. Les supermarchés. Celui près de chez moi contient plus de 20 000 produits en provenance de partout dans le monde. Tout ça pour une marge bénéficiaire nette de 3,4%. Et c'est une enseigne considérée comme quelconque par bien des gens. Nos ancêtres en resteraient bouche bée. Les ciseaux à ongles. Comment les gens faisaient-ils avant l'invention des ciseaux à ongles et des lunettes? Ce sont des mystères de la vie. Les chauffeurs d'autobus et de métro. Les policiers qui gèrent les feux de circulation près des chantiers routiers. Les routes asphaltées. Google Maps. Les correcteurs orthographiques de type Antidote. Le transport international de colis, un paquet de Chine ou du Royaume-Uni qu'on dépose à ma porte, ne cessera jamais d'être de la magie. L'eau potable propulsée dans les tuyaux de ma maison. Les petits écouteurs sans fil que j'utilise chaque jour. Le Bluetooth en général, même si c'est gossant à synchroniser. Les Bixi, avec des pneus à clous l'hiver. Le Mont-Royal pour courir le soir entre les peupliers deltoïdes centenaires qui bordent le chemin Homestead, avec les lumières du centre-ville qui dansent derrière la forêt. Les pistes de ski de fond accessibles gratuitement dans les parcs. Les manteaux légers en duvet. Mes souliers. L'hiver qui commence fort avec beaucoup de neige. Les journées qui commencent à rallonger à partir d'aujourd'hui. La frontière, je suis reconnaissant de vivre au Canada, surtout cette année. Le bruit de la clé dans la serrure quand je rentre chez moi. La confiture aux abricots, sur du pain au levain, avec une tranche de cheddar. La petite roulette qui permet de baisser l'intensité de la lumière, ça s'appelle un gradateur, mais j'aime mieux dire petite roulette. Les balados en lavant la vaisselle. La pharmacie au coin de la rue. Le service du 911. Je suis reconnaissant de vivre dans un endroit et à une époque où ça existe. Les fonds négociés en bourse tout en un. Acheter la planète boursière en un clic. On n'a jamais rien vu de tel. Les éboueurs qui nous donnent des rues sans déchets. L'aspirateur qui nous donne des pièces sans poussière. Ma table de bureau, elle a été fabriquée par mes amis une fin de semaine il y a 25 ans. La pépinière de Coaticook, qui a cultivé pendant 7 ou 8 ans l'arbre de Noël qui éblouit ma famille. Mes collègues à la presse, jeunes et moins jeunes, avec qui je mange parfois le midi. Vous êtes des pros, vous êtes drôles, vous m'inspirez. Vous qui lisez cet article, sans vous, on est juste des gens zélés qui écrivent dans Word. Avec vous, on fait le plus beau métier du monde. C'était 36 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, un texte de Nicolas Bérubé paru dans la presse.
On est déjà dans la science-fiction, la discrète révolution des neurotechnologies. Un texte de Julien Durie paru dans Le Devoir. Traduire directement la pensée en mots. Faire remarcher des paralytiques. Autant d'avancées déjà permises par les neurotechnologies, un champ de recherche qui pourrait s'avérer aussi révolutionnaire que l'intelligence artificielle, IA, et comme elle, soulever de graves préoccupations éthiques. Les gens ignorent à quel point on est déjà dans la science-fiction, explique à l'AFP Anne Vanorstenberg, chercheuse au King's College London. La scientifique est à la tête d'un laboratoire qui développe des appareils électroniques destinés à être implantés dans le système nerveux, ce dernier incluant non seulement notre cerveau, mais aussi la moelle épinière qui transmet les messages cérébraux au reste du corps. Ce sont des neurotechnologies. Depuis plusieurs années, ce domaine avance de manière fulgurante. De l'avis de plusieurs observateurs et chercheurs, c'est une révolution scientifique aussi importante que l'intelligence artificielle IA, mais nettement moins médiatisée. Quelques exemples récents illustrent cet essor. En juin 2025, une publication dans la revue Nature détaillait comment, chez un patient atteint de la maladie de Charcot, un implant cérébral développé par une équipe californienne a permis de traduire quasi immédiatement, 1/40 seconde, sa pensée en mots via un logiciel de synthèse vocale. Depuis plusieurs années, une équipe suisse multiplie les expériences permettant à des paralytiques de retrouver un contrôle important de leurs mouvements, parfois jusqu'à remarcher, grâce à l'implantation d'électrodes sur leur moelle épinière. Ces expérimentations, avec bien d'autres, sont encore loin de restaurer de pleine capacité aux patients concernés. Et il reste à voir comment elles pourraient se généraliser afin de profiter à de nombreuses personnes. Mais le grand public n'a pas conscience de ce qui est là et change déjà des vies, insiste Mme Vanorstenberg. Elle souligne combien ces dispositifs sont en train de devenir de plus en plus performants. Avant, il leur fallait des milliers d'heures d'entraînement avant qu'une personne puisse composer plusieurs mots par la pensée, note-t-elle. Maintenant, il n'en faut plus que quelques-unes. Levée de fonds. Comment expliquer cet essor? Par un mélange d'avancées scientifiques, grâce aux progrès en matière de compréhension du cerveau et de progrès technologiques grâce notamment à une miniaturisation de plus en plus poussée. L'IA elle-même a démultiplié les capacités des algorithmes utilisés. Ces promesses n'échappent pas au secteur privé. À partir de la fin des années 2000, nombre de jeunes entreprises sont apparues et ont levé des dizaines de milliards de dollars qui se traduisent désormais en réalisations concrètes. La plus médiatisée reste le groupe Neuralink, du multimilliardaire américain Elon Musk, qui, depuis 2024, a annoncé avoir implanté son dispositif à une dizaine de patients, même si les experts restent mesurés sur son caractère réellement innovant. Actuellement, Neuralink, c'est de la fumée avec beaucoup d'annonces, minimise auprès de l'AFP Hervé Schoenzeis, neurologue et spécialiste de l'éthique à l'INSERM. Reste que le jour où ils vont arriver à faire des produits commerciaux, et ça ne sera pas dans longtemps, il sera trop tard pour s'en inquiéter, prévient-il. Ces technologies suscitent en effet d'importantes préoccupations éthiques, notamment car certaines entreprises, à commencer par Neuralink, ne comptent pas les limiter au seul domaine de la santé et font déjà la promotion de produits promettant d'améliorer les capacités cognitives de tout un chacun. Intimité mentale menacée. Dans ce contexte, l'UNESCO, Agence des Nations Unies, vient d'approuver des recommandations destinées aux États en matière de régulation. Elles doivent entrer en vigueur ce mercredi, même si elles n'ont pas de valeur contraignante. Les auteurs, dont fait partie M. Schoenweiss, ont retenu une définition très large des neurotechnologies. Ils y incluent des appareils déjà commercialisés, tels montres et casques connectés, qui n'agissent pas directement sur notre cerveau, mais mesurent des indicateurs donnant une idée de l'état mental de l'utilisateur. Aujourd'hui, le premier risque, c'est l'atteinte à la vie privée. Notre intimité mentale est menacée, avance M. Schoenweiss. Il cite le risque que des données tombent chez votre patron qui va considérer que votre temps d'éveil ne convient pas à l'entreprise. Quelques pays ou États ont déjà pris le sujet en main. Aux États-Unis, la Californie, foyer mondial des recherches en neurotechnologie, a adopté fin 2024 une loi pour protéger les données cérébrales des personnes, établissant le même cadre que pour les données de géolocalisation. C'était « On est déjà dans la science-fiction », la discrète révolution des neurotechnologies. Un texte de Julien Durie, paru dans Le Devoir.
Comment prendre soin de sa peau en hiver? Un texte de Catherine Hanfield, paru dans La Presse. Protéger sa peau est une habitude pour beaucoup associée à l'été. Pourtant, la saison froide amène aussi son lot de défis et de risques, comme la sécheresse, la démangeaison et bien sûr l'eczéma. Comment prendre soin de sa peau quand le temps froid revient? On fait le point avec deux dermatologues. Différents effets. Quand il fait froid, entre les mois d'octobre et d'avril, plusieurs choses ont influencé la santé de la peau, indique d'emblée la dermatologue Elena Netchiporuk, professeure adjointe à l'Université McGill. L'ensoleillement diminue et le risque d'infection augmente. On va moins à l'extérieur, on recouvre davantage notre peau et évidemment, on subit le froid, le vent et la sécheresse des maisons chauffées. Ça va augmenter la sécheresse de la peau et donc le risque de faire n'importe quelle condition qui pique, résume la dermatologue. Attention à l'eczéma. L'eczéma a tendance à s'aggraver en hiver. Au Canada, à cause du climat, on est reconnu pour avoir de l'eczéma beaucoup plus sévère que d'autres pays, et surtout dans la saison hivernale, souligne le dermatologue Joël Claveau, professeur de clinique à l'Université Laval. L'eczéma atopique se développe souvent chez les personnes qui souffrent d'asthme ou du rhume des foins et se traduit par des plaques rouges et sèches. En hiver, les dermatologues voient aussi plusieurs cas d'eczéma numulaire, des plaques qui ressemblent à des pièces de 2 dollars, et d'eczéma craquelé, la peau des jambes est si sèche qu'elle craque. Barrière cutanée. Le principe de base pour prévenir la sécheresse, la démangeaison et même l'eczéma, protéger sa barrière cutanée, qu'on peut comparer à un mur de briques et de mortier. Les briques sont des cellules de la peau et le mortier, les huiles naturelles de la peau, acides gras libres, triglycérides et céramides. Cette huile est là pour vous protéger de tous les agents externes et pour conserver l'humidité, explique la docteure Netchiporuk. Il ne faut donc pas laver sa peau comme un plat de lasagne sale. C'est encore plus vrai en vieillissant, dit-elle. Après 65 ans, ou même après la ménopause chez la femme, la peau devient plus sèche, plus fragile, comme celle d'un bébé, illustre la dermatologue. Douche courte et tiède. Les gens dont la peau est sujette à l'eczéma ou simplement fragile ou sèche ont intérêt à éviter les longues douches chaudes. Agréable soit, mais néfaste pour la barrière cutanée. Il y a même des dermatologues qui recommandent de se laver deux fois par semaine plutôt que tous les jours, observe le docteur Claveau. À ces patients à la peau atopique ou fragile, il conseille plutôt de s'en tenir à des douches de 5 minutes, à l'eau tiède, en utilisant le savon sur les aisselles, l'aine et les parties génitales seulement. On lave seulement les endroits qui puent, résume Elena Nechipourouk. À ceux qui craignent d'être sales, la dermatologue rappelle ceci. La peau se renouvelle tous les 14 à 21 jours. Savon doux. Aux gens à la peau sensible, les dermatologues recommandent généralement des savons doux, comme les savons sans savon. Ces détergents synthétiques, surnommés syndettes, sont formulés pour respecter le pH naturel de la peau, environ 5,5. Ils moussent un peu moins, mais ils sont beaucoup moins irritants, explique le docteur Joël Claveau. Plusieurs grandes entreprises formulent des syndettes, tant liquides que solides, comme le populaire pain de beauté de Dove. Mieux vaut opter pour des produits non parfumés. Quant aux savons naturels, ils sont en général trop alcalins pour la peau, à l'exception de certains savons à la glycérine, note la docteur Nechipourouk. Enfin, le docteur Joël Claveau recommande de laver ses vêtements avec des détergents doux, avec extra rinçage, pour éliminer les résidus de savon. Crème et lotion. Les gens qui ont la peau sujette à la sécheresse, à la démangeaison et à l'eczéma ont aussi avantage à l'hydrater. À quel moment ? En sortant de la douche, lorsque la peau est humidifiée, pour bien conserver son hydratation. Crème et lotion, quelle est la différence ? La crème, c'est un peu d'eau dans de l'huile et la lotion, un peu d'huile dans l'eau, résume le docteur Claveau. Les crèmes sont donc plus efficaces. Pour les gens réticents à en mettre, les hommes poilus par exemple, une lotion est mieux que rien, indique le dermatologue. Les adolescents sujets à l'acné, dit-il, devraient pour leur part privilégier des produits non comédogènes, comme des fluides hydratants. Gare au soleil. Comme le soleil est plus bas dans le ciel en automne et en hiver, les rayons ultraviolets sont moins intenses, mais la peau n'est pas protégée du soleil pour autant, prévient le dermatologue Joël Claveau. Il n'est donc pas rare d'attraper un coup de soleil au visage lorsqu'on passe la journée à l'extérieur, souligne le docteur Claveau, qui rappelle que les rayons UV réfléchissent sur la neige. Autre chose à savoir, les rayons UVA, ceux qui pénètrent en profondeur dans la peau et qui la font vieillir, sont pratiquement aussi intenses en hiver. Ils traversent même les nuages. La solution, appliquer de la crème solaire sur son visage tous les jours. C'est d'ailleurs une bonne crème hydratante, conclut-il. C'était « Comment prendre soin de sa peau en hiver ?» un texte de Catherine Hanfield, paru dans la presse.
La gestion des chantiers de Montréal doit être améliorée. Un texte de Isabelle Dessureau et Yves Lalumière, publié dans Le Devoir. Depuis quelques années, le même constat revient. Se déplacer à Montréal est devenu un parcours à obstacles. Entre les chantiers qui s'étirent, les détours imprévus et les voies constamment encombrées, l'absence de fluidité de la circulation est devenue un irritant majeur pour tout le monde, citoyens, travailleurs et visiteurs. Personne n'y échappe, piétons, cyclistes, automobilistes, tous voient leur déplacement perturbé. Les nuisances causées par les problèmes de gestion des chantiers ne relèvent pas de la perception, elles sont documentées. Selon nos analyses, pas moins de 93% des artères du centre-ville ont été entravées au cours de l'année 2023 et 87% l'ont encore été en 2024, un niveau d'entrave exceptionnel et intolérable pour un secteur aussi névralgique de la métropole. Les cônes oranges sont devenus l'emblème involontaire de Montréal. Leur présence en nombre record n'évoque ni le progrès, ni l'investissement, ni de grands travaux transformateurs. Elle illustre plutôt les obstacles d'une grande ville où l'on peine à circuler et où, trop souvent, on tourne en rond. Ils incarnent aussi une gestion fragmentée par l'administration municipale, un système où l'absence de plans d'ensemble et d'outils numériques intégrés conduit aux mêmes scènes répétées, des rues ouvertes, refermée, puis rouverte encore. Ce diagnostic, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal le font depuis la publication, en 2023, d'une vaste étude sur la gestion des chantiers intitulée « Blocage minimum ». Depuis, nous rendons disponible chaque année un outil de suivi, le baromètre obstacle minimum, afin de mesurer les progrès réalisés et l'intégration des solutions que nous proposons avec les experts et l'industrie. Or, la mise à jour 2025 le confirme. nous sommes loin d'une amélioration perceptible. Avec ce baromètre, nous offrons à la Ville de Montréal et à la nouvelle administration un repère pour orienter leurs décisions et améliorer la gestion des chantiers. Les métropoles qui s'en sortent le mieux ne sont pas celles qui construisent le plus vite, mais celles qui planifient le mieux. Ailleurs, des métropoles comme Amsterdam, Paris ou New York montrent la voie en misant sur la planification intégrée, la coordination serrée et la discipline opérationnelle. La situation est telle qu'elle requiert désormais un véritable réflexe d'urgence. Il devient impératif de mettre en place une cellule d'intervention pour l'hypercentre responsable de reprendre en main la coordination des chantiers afin de limiter les entraves inutiles et de remettre de l'ordre dans un système qui, aujourd'hui, échappe trop souvent à tout contrôle. Pourquoi Montréal ne pourrait-elle pas y arriver? Un constat s'impose toutefois. La technologie fera partie de la solution, mais la transformation de nos manières de faire sera tout aussi déterminante. L'intelligence artificielle et les jumeaux numériques ouvrent aujourd'hui une nouvelle ère pour la mobilité et la planification urbaine. Ces outils permettent de modéliser en temps réel l'état du réseau, de prévoir l'impact d'un chantier avant même le lancement de celui-ci, d'adapter les configurations routières selon les flux observés et d'éviter les doublons coûteux qui paralysent inutilement la vie de notre ville. Nous avons ici, à Montréal, toute l'expertise nécessaire pour rétablir la fluidité. Nos firmes d'ingénierie, nos entreprises technologiques et nos chercheurs maîtrisent déjà ces outils de pointe et les déploient ailleurs dans le monde. Il nous revient maintenant de mettre en valeur cette expertise locale et de l'intégrer pleinement à une gestion des chantiers plus modernes. En misant sur ces innovations, Montréal peut passer d'une ville qui subit ses chantiers à une ville qui les anticipe, les planifie et les adapte en temps réel. Autant de leviers qui permettent de mieux communiquer avec les citoyens et les entreprises. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada a été élue sur la promesse d'écouter et d'agir. Elle a déjà exprimé son ambition d'améliorer la gestion des chantiers et la mobilité. C'est aussi un souhait des fonctionnaires d'être mieux outillés. Nous avons entendu cette promesse et nous lui tendons la main. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et nos partenaires seront au rendez-vous. Nous ne laisserons pas ce débat s'enliser. Nous proposons plutôt des analyses actualisées, des solutions concrètes, une compréhension fine du terrain ainsi que de meilleures pratiques sur la scène mondiale. Parce que les défis liés au chantier ne sont plus ponctuels, ils sont structurels. Le vrai défi n'est plus de comprendre, mais d'agir. Notre ambition est claire. Montréal mérite mieux que d'être caricaturée comme la capitale du cône orange. Une ville comme la nôtre devrait être reconnue mondialement pour son effervescence culturelle, son dynamisme entrepreneurial, son savoir et sa qualité de vie, et pas pour ses entraves. C'était « La gestion des chantiers de Montréal doit être améliorée », un texte de Isabelle Dessureau et Yves Lalumière, publié dans Le Devoir.
Quand les chiffres tuent les soins. Un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. Oui, il faut gérer et améliorer notre système, mais cela exige un changement de culture. L'année 2025 aura été difficile pour notre système de santé. Départ important de médecins, démissions successives des ministres Lionel Carman et Christian Dubé. Au cœur de ces déboires, un désaccord fondamental sur les indicateurs de performance et les moyens de les atteindre. Les gestionnaires répètent un mantra apparemment évident. On ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Appliqué à la santé, ce dogme devient absurde. Selon cette logique, vous n'améliorerez pas votre santé en adoptant simplement une diète méditerranéenne et en bougeant plus. il vous faudrait d'abord une montre GPS, puis calculer méticuleusement vos calories, vitamines et nutriments pour gérer votre santé. Le problème est bien connu. On finit par gérer ce qu'on peut facilement mesurer en délaissant l'essentiel. Compter les patients vus en 4 heures est simple. Mais comment mesurer la compétence d'un soignant, la sécurité des soins prodigués, la qualité de l'écoute et du conseil? C'est comme prétendre qu'il est plus facile de gérer sa santé avec des chips, dont tous les nutriments sont inscrits sur le sac, qu'avec des fruits et légumes. Face à la complexité de la santé, la tentation est de tout découper en petites parties mesurables, puis de recoller ces fragments en espérant reconstituer une personne. Un roman célèbre raconte l'histoire d'un scientifique qui a déjà tenté l'expérience. Il s'appelait Frankenstein. Après 3 décennies dans l'enseignement médical, je constate que la compétence s'observe bien plus facilement qu'elle ne se mesure. Notre système top-down, ultra-centralisé, confie les décisions à des gestionnaires généralement éloignés des soins et ignorants des réalités variables selon les régions. Privés d'observation directe, ils se rabattent sur des statistiques qui deviennent leur seule réalité. Cette obsession chiffrable détourne des budgets massifs vers des armées de fonctionnaires produisant des données plutôt que vers les soignants qui servent la population. En 1956 déjà, le chercheur V.F. Ridgway publiait un article sur les « conséquences dysfonctionnelles des mesures de performance ». Près de 70 ans plus tard, difficile d'imaginer que le ministère et Santé Québec, créé précisément sur le concept d'indicateur de performance, fasse marche arrière. On peut néanmoins espérer que la nouvelle ministre, grâce à son expérience comme soignante, ait développé une vision du système de santé qui dépasse une simple série d'indicateurs. Oui, il faut gérer et améliorer notre système. Mais cela exige un changement de culture axé sur la compétence clinique, la sécurité des soins, la bienveillance et la performance globale et multidisciplinaire, tous des concepts difficiles à mesurer, justement. C'était « Quand les chiffres tuent les soins », un texte de Pierre Beaupré, paru le 5 janvier 2026 dans Le Devoir. «